Merci Annie pour cette invitation. Donc aujourd'hui, comme c'est une journée de lancement, je vais vous présenter, on va dire, l'état des recherches qui partent dans beaucoup de directions. Vous allez voir, je pense, beaucoup de choses. Et puis quand vous reviendrez, je l'espère, en octobre, voir l'exposition et puis la performance, et à ce moment-là, vous aurez la synthèse de ce que vous voyez émerger rapidement là. Peut-être je représente un petit peu Sébastien Courvoisier, qui est ingénieur, avec qui j'ai travaillé sur quelques projets depuis quand même 2001. Voilà, donc des projets aussi sur les data. On peut dire que tu es spécialisé quand même en aspirateur à données. Peut-être oui. Tu peux dire deux mots de plus.
Sans que c'est vrai que la plupart des projets sur lesquels on a travaillé ensemble consistaient à absorber, à aspirer des données depuis le web. Des données textuelles ou autres, et à les restituer dans le contexte des installations qu'on a développées ensemble. Et donc c'est vrai que c'est ça, principalement, voilà. L'aspiration de données.
Donc Sébastien est ingénieur, il travaille dans une grosse société, et pour pas mal d'artistes en plus. Voilà. Aussi. Laurent Lotti, qui est chercheur indisciplinaire.
Voilà, merci. C'est sympa. C'est ça.
C'est ça,
c'est
parfait.
Ma discipline.
Et Michel Galli.
Moi qui suis disciplinée, mais...
En littérature. Et puis, je profite pour présenter Robin, qui est là, qui va m'assister. C'est un ancien étudiant à moi qui m'assiste sur ces projets. Donc, il m'a aidé à faire certains des éléments que je vais vous présenter aujourd'hui. Je ne vais pas présenter tellement d'anciens travaux à moi, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de choses nouvelles et ça m'intéresse plus d'en discuter avec vous après. Donc peut-être pour ces dernières années, pour faire un peu vite, je me suis intéressée à beaucoup sur des notions de langage, des rapports entre technologie et langage. Je me suis intéressée aussi sur les grilles prescriptrices, comment les grilles d'évaluation peuvent être prescriptrices dans le domaine artistique particulièrement, puisque c'est quand même plutôt mon domaine. Et puis là, en l'occurrence, maintenant sur d'autres types de choses. Je pourrais commencer peut-être en disant que j'ai retrouvé cette petite statistique que j'ai fait en 2012, qui serait une statistique sur mon évolution, où au départ, vous voyez, je m'intéressais en 98 plutôt aux sciences de l'ingénieur. Donc j'ai fait beaucoup de projets qui impliquaient, on va dire, des technologies numériques. Puis à partir d'un moment, ça bascule et je me suis intéressée plus aux sciences dites souples, c'est-à-dire aux sciences humaines. Voilà. Et le projet que je vous présente là va impliquer plus de notions politiques, philosophiques et politiques. Quand Annie m'a proposé cette résidence, je me suis dit... j'étais en train de chercher des choses, je suis toujours en train de chercher d'ailleurs, et j'étais en train de m'intéresser aux célébrations. Je ne sais pas si tu te souviens. Je me disais, tiens, ce serait marrant d'être en 2150 et d'imaginer qu'on célébrerait quelque chose de... Enfin, qu'on se souviendrait qu'en 2016, on a commencé à célébrer un truc bien, quoi. Je n'ai pas encore trouvé le truc bien, mais c'était un petit peu l'idée de qu'est-ce qu'on pourrait célébrer. Donc, je me suis intéressée aux célébrations. Et la première journée mondiale date de 1950, c'est la journée mondiale ou internationale, je ne sais plus, des droits de l'homme. Voilà, donc quelque chose de très, on va dire, vénérable. Et du coup, je me suis intéressée un petit peu à tous les types de célébrations qui peuvent exister. Alors, je vous en cite quelques-unes. C'est soit des célébrations institutionnelles, soit des célébrations qui peuvent être faites par des citoyens qui sont un peu comiques, plus ou moins suivis. Je vous ai listé celles qui me plaisent. Donc, il y a la journée mondiale sans téléphone, la journée du compliment, la journée du bien-être, du coloriage, du travail invisible. Donc ça, c'est travail invisible, c'est le travail des femmes, la charge mentale des mères. Un adège. Il y a la journée de la frite belge, la journée de la lenteur, la journée internationale des câlins, la journée de l'orgasme, la journée du pull moche de Noël, qui vient d'ailleurs, je crois, le lendemain ou la veille. Et la journée du bonheur, qui est une journée institutionnelle organisée par l'ONU, qui est le 20 mars, donc qui avait lieu récemment. Alors du coup, je me suis dit, mais le pull moche de Noël, tout ça, on voit bien qu'on est dans la joke. J'aime assez. Mais du coup, la journée du bonheur pour l'ONU, tu veux vérifier si c'est branché,
ça? Oui, c'est bon.
Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça en me disant, ah ouais, d'accord, sur le site de l'ONU, il y a une journée du bonheur. Qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait? Qu'est-ce qu'on célèbre réellement, puisque l'ONU est quand même un organisme international, donc qu'est-ce qu'on met là-dedans? Et donc, cette petite présentation va s'organiser beaucoup sous ce qu'on appelle une forme de sérendipité. Alors, c'est un mot un peu savant qui veut dire qu'on cherche un truc et puis on trouve autre chose. Donc, c'est un petit peu ce qui m'arrive avec ce projet. Donc, j'ai commencé à regarder sur le site de l'ONU qu'est-ce que c'est que le bonheur. Je suis tombée sur le bonheur national brut. Je sais que certains qui ont reçu le carton pensent que c'est une invention de ma part, mais non, malheureusement, ou heureusement, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui existe depuis 1972, inventé par le Bhoutan. On y reviendra un peu après. Et j'ai commencé à m'intéresser du coup à okay, comment on quantifie en fait ce bonheur, comment on le jauge, comment on l'estime et qu'est-ce qui se passe avec ça. Alors, ah oui, je peux peut-être vous montrer ça. Ça va charger. Ou pas. Ouais, pas gagné. C'était la journée du bonheur de l'ONU. Voilà. Alors, je vais revenir. Je me suis d'abord intéressée à qu'est-ce qu'on quantifie, comment on quantifie le bonheur et qu'est-ce qu'on quantifie. Alors, j'ai glané beaucoup de choses. Là, ces derniers temps, j'ai entendu à la radio que notre temps de travail pour acheter un sandwich jambon beurre était passé de 11 minutes à 12 minutes. Je trouvais ça excellent de, voyez, enfin, je veux dire qu'on sache le coût du travail à l'heure et le prix du sandwich, mais en tout cas, on travaille donc une minute de plus pour acheter un sandwich moyen, prix moyen, puisque ce n'est pas le même prix, voilà. J'ai entendu hier à la radio que, au vu des événements dramatiques de cette année, évidemment, il y a une restructuration des forces de sécurité avec un équipement spécial antiterroriste qui est en train d'être déployé sur le territoire, dans l'objectif que chaque Français soit à 20 minutes d'une force de police spécialement équipée pour la lutte antiterroriste. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire 20 minutes par rapport à un problème terroriste. Alors j'en ai une autre comme ça, quantification, qui m'a beaucoup plu récemment, qui est très particulière. C'est donc mon fils aîné qui m'a posé cette question. Il m'a dit, tu préfères être emprisonné pendant 20 ans ou être nazi pendant 20 ans ? Alors là, c'est vraiment, on est à table quoi, vous voyez, mange tes carottes chérie, qu'est-ce que c'est que cette question ? Et qu'est-ce qui se passe dans la tête comme ça pour... Alors je lui ai dit, mais être nazi pendant 20 ans, c'est compliqué parce que ça veut dire que je vais tuer beaucoup, beaucoup de gens. C'est quand même très compliqué. Puis après, je vais aussi faire les 20 ans de prison.
Oui, en plus, oui.
Et alors, voilà. Et alors, il m'a dit, non, mais par exemple, si t'es juste nazi, et mais qu'en fait, tu tues personne. J'ai pas de réponse. C'était très particulier. Ça, c'est d'autres quantifications aussi assez intéressantes que je vous ai apportées. Celle-ci, le curseur ne marche pas dans ce logiciel. Bon, voyez les courbes en bas, c'est le taux de présence et de fréquentation des élèves au collège au XVIIe siècle corrélé au prix du blé à Saint-Omer dans le Nord. Alors celui-ci, ah ouais, on ne voit pas très bien. Bon, je vous l'explique, c'est un livre qui s'appelle Data Vision. Ça liste le taux d'étudiants vierges à l'entrée à l'université selon les matières. Alors,
c'est pas pareil.
Non, mais c'est quand même. Alors, en art plastique, c'est voilà, mais en fait, quand vous descendez, vous avez anthropologie, vous avez histoire de l'art, et puis français, jusqu'aux mathématiques en bas.
Ce sont les plus vierges.
Attendez, excusez-moi, c'est une source du MIT, hein, ce que je vous présente. Autant le pull moche de Noël, c'était une blague. Mais ça, c'est quand même des statistiques faites par des instituts sérieux. Alors ça, c'est intéressant, puisque c'est l'écart de richesse entre gaucher et droitier. Donc moi, je suis gauchère, donc je vous le donne. Mais comme ça ne vaut que pour les hommes, vous voyez, c'est écrit là. Donc ça va déjà beaucoup mieux. Voilà. L'overdose d'email, ça, je pense que tout le monde est... voilà. Alors ça, c'est une autre forme de quantification qu'on abordera peut-être un tout petit peu aujourd'hui, mais pas tant que ça. Vous savez, c'est le quantified self quand vous pouvez avoir maintenant une montre connectée qui va mesurer, même votre téléphone, hein, les derniers modèles mesurent votre nombre de pas à la journée, puisque l'Organisation mondiale de la santé vous conseille de faire 10 000 pas par jour, et puis ça va pouvoir vous indiquer toutes les calories que vous avez mangées, et puis comment vous avez dormi. Certaines montres aussi peuvent enregistrer et évaluer vos rapports sexuels. Celle-ci permet de vous indiquer si vous êtes assis trop longtemps, que vous devez vous lever, voilà, histoire de ne pas rester assis plus de tant d'heures. C'est l'Apple Watch. Hein. Voilà, donc c'est quand vous êtes mère que vous dites tout le temps, assieds-toi, mange, lève-toi, mets ton blouson, zippe le blouson, l'écharpe, le truc. Et ben maintenant, une fois que vous avez sorti de ça, et ben vous avez votre montre qui vous dit lève-toi, fais ça. Donc ça, on peut faire ça aussi. Alors un petit peu plus institutionnel, ça c'est sur l'UNESCO. c'est les modes de degré de participation à l'activité culturelle. Donc le cœur violet, ça va être plutôt un artiste-auteur qui est engagé vraiment dans un acte créatif qui produit quelque chose. Et puis tout en bas, c'est par degré, tout en bas, là, voilà, c'est celui qui assisterait à une œuvre un peu en passant dans la rue, qui voit quelque chose sans vraiment l'avoir choisi. Et vous avez les degrés de participation. Alors ce qui est pas mal, c'est que l'UNESCO dit, sur ce document que je vous ai mis en bas, Handbook Cultural Participation, l'introduction, ça indique qu'effectivement, on reconnaît que la valeur culturelle et l'impact de la culture alimentent de plus en plus les débats politiques. En l'absence d'une base méthodologique ou théorie générale acceptée, ceci est exprimé par un certain Merli. Si nous ne comprenons pas comment les arts sont supposés produire les effets sociaux qui leur sont attribués, comment pouvons-nous nous attendre à développer et fournir une preuve empirique ? Mais le site ne précise pas du tout quels sont les effets sociaux que les arts sont supposés produire. En tout cas, moi, en tant qu'artiste, ça m'intéresse. J'ai questionné 2-3 théoriciens que j'ai autour de moi. Et évidemment, c'est des questions qu'on ne résume pas beaucoup en 2 lignes. On peut supposer qu'il s'agit peut-être dans ce cas-là de que l'art est censé produire du bien-être ou du lien social. Bon, enfin, ça, c'est une valeur, on va dire, très politique de l'art et pas très... bon, voilà. Mais j'aimais bien ce graphique. Ah oui, celui-là, il est bien aussi. Ah, il te plaît, Michel, aussi.
Oui, j'adore.
Alors, ça, c'est l'indice de développement humain. Pareil, hein, c'est des indices sur le site de l'ONU. Donc, c'est quand même intéressant. On essaye de se dire comment on se développe et comment on le calcule. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est comment on le calcule. Donc, vous avez la longévité, ensuite le niveau d'éducation. Vous voyez que sur le niveau d'éducation, vous avez 2 choses. Vous avez l'indice de durée moyenne de scolarisation. Ça, c'est assez tangible. Mais vous avez aussi l'indice de durée attendue. C'est-à-dire que si un enfant décroche avant ce qui est attendu, ben, on le calcule. Et puis ensuite, vous avez, ça vous donne le niveau d'éducation. Puis ensuite, vous avez le niveau de vie. Et donc, vous avez l'IDH, donc l'indice de développement humain. Et voilà le calcul. Et donc, on calcule ça sur de très nombreux pays. Et on essaye de voir ce qu'on fait avec ça. Alors celui-ci, c'est assez intéressant parce qu'il a été désactivé. Il était en cours jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Je vous l'ai quand même mis, puisque c'était une visualisation de l'indice de développement humain. Vous voyez, Human Development Index, qui allait de 98 à 2013. Il était encore en ligne jusqu'à il y a, je ne sais pas, 2-3 semaines peut-être. Je m'en servais pas mal. C'était un petit graphique où on voyait les pays clignoter comme ça en fonction des années. On faisait bouger le curseur. Et en fait, bizarrement, au-dessus de la Norvège, mais j'ai pas capturé j'ai pas le bon graphique, il y avait le Koweït, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Alors c'est vrai qu'en tant que femme, ça questionne de voir ce type de pays au-dessus de la France et de la Norvège. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, ils se sont dit qu'à force de prendre en compte uniquement le revenu, il y avait une forme d'indécence. Donc je me questionnais toujours sur ces histoires de bonheur et de bonheur national brut. Voilà, ça c'est extrait d'un site. Alors effectivement, vous le savez, on n'est pas du tout bon dans cette activité. On va en reparler. On est bon dans plein d'autres activités, mais ça, on n'est pas très très bon. On va y revenir. Enfin, j'aimais bien ce graphique. Et puis, à force de chercher comme ça, je suis tombée sur le site d'Eurostat. Donc, Eurostat, c'est toutes les statistiques européennes. Ils ont, je crois, un document qui fait combien de pages, je sais plus.
La table des matières, enfin, l'ensemble des bases de données, je crois, je ne sais plus combien, que c'est 900 de pages en PDF. Il y en a plus de 4000, 5000 jeux de données qui sont autour de ces questions-là, mais aussi transport...
Voilà, donc ils font énormément de statistiques. Alors, certaines sont très, très simples et très attendues. Je vous ai évidemment listé celles qui nous intéressent le plus ici. Donc, je vous les lis. Incapacité à joindre les deux bouts. Fréquence des contacts avec la famille ou les amis par sexe et âge. Avoir quelqu'un sur qui compter en cas de besoin, par sexe, âge et niveau d'éducation atteint. Et aussi, par quintil de revenus, degré d'urbanisation et type de ménage. Fréquence du sentiment de bonheur au cours des 4 dernières semaines par âge, sexe et niveau d'éducation atteint. Et il y a aussi l'autre avec le quintile, le degré d'urbanisation et le type de ménage. Sentiment de bonheur des 4 dernières semaines, c'est très précis. Il y a le bien-être psychique, encore, c'est vrai que ça, niveau d'éducation atteint. La participation à l'apprentissage informel par degré d'urbanisation. Je vous demande de ne pas me questionner sur ce que c'est. La satisfaction générale avec le logement par niveau de limitation des activités. Je ne sais pas non plus ce que c'est. L'indicateur de divorcialité et l'espérance de vie en bonne santé, mais basée sur la santé perçue par soi-même. Alors, on va le voir un peu plus tard. Il est beaucoup, beaucoup question de choses telles qu'elles sont perçues par soi-même. Mmh. C'est ça que je trouve assez intéressant, enfin, que je vais aborder dans ce projet. C'est que finalement, on met des tableaux avec des chiffres, avec des courbes, avec des choses comme ça qui semblent dans une forme d'objectivité très perfectionniste. Et finalement, on parle de choses ressenties. Voilà. Alors, est-ce que j'arrive à avoir Internet à un moment ou pas? Parce que je voulais montrer un petit truc. Bah ouais, mais il marchait tout à l'heure. On va réessayer quand même. Ce serait pas mal d'avoir Eurostat. Ouais, tu vois, il est pas très content. Non, je suis bien sûr quoi. Je sais pas, parce que là, comme je suis...
Si, ça y est, là, tu es dessus.
Ah, voilà. Voilà, comme ça, vous voyez, Europa, data, open data, fréquence du sentiment de bonheur au cours des 4 semaines. Donc, on est bien sur un site d'open data. C'est ce sur quoi travaille Sébastien et dont il va parler un petit peu à la fin de cette présentation. Donc, je voulais simplement vous montrer ça. Donc, voilà. Et quand vous descendez, ben, ici, vous pouvez télécharger les bases de données sous plein de formats, STV, SDMXL, voilà. Et puis une fois que vous téléchargez ça, vous tombez sur quelque chose encore plus abscon, et Sébastien vous fera un bonheur de vous promener là-dedans.
C'est,
mais,
c'est le cas de
mais je me suis dit que c'était un peu tôt en début de présentation,
oui.
Un peu, donc tout à l'heure. Alors, je reprends mon truc. Donc du coup, comme je l'ai fait sur des projets précédents, j'ai commencé à acheter quelques bouquins. J'en ai amené quelques-uns ici. Et puis, j'ai repris le principe qu'on avait commencé à développer avec Siegfried, qui est là, je crois. Coucou. Voilà. Qui est d'aller interviewer des personnes un peu spécialisées sur ces sujets-là. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai rencontré Laurent Lotti et Michel Galli. Donc je me suis dit, on va essayer de... Voilà, j'ai cherché un petit peu parmi toute ma navigation, comme ça, à interviewer des gens. Et j'ai... ah oui, il y a celui-là aussi, chez Eurostat. Je l'avais mis à part, parce que c'est une capture d'écran, Meaning of Life, donc le sens de la vie. Et on vous demande si vous êtes satisfait, et vous répondez entre 0 et 10. Non, vous vous donnez une note. C'est pas oui, non. Donc vous notez, vous notez sur votre sens de la vie. Mais on va voir le coût de la note, ça va revenir après à l'INSEE, tout ça, ça a l'air de se développer énormément. Alors, j'ai interviewé Emmanuel Didier, qui est un sociologue de la quantification. J'ai pu l'interviewer que par Skype. Je crois que le son est très très mauvais, donc je vais essayer de vous le passer. Si jamais c'est trop mauvais, je vous lirai un petit peu ce qu'il raconte, parce que je n'ai pas pu nettoyer le son, puis ça siffle énormément, puis c'est un enregistrement. Bon, voilà, on va voir.
Donc, je m'appelle Emmanuel Didier, je suis... Je suis un sociologue.
Ça va ou pas? Ah, c'est pas mal. Alors allons-y.
Donc je m'appelle Emmanuel Didier, je suis chercheur au CNRS, je suis un sociologue. Et j'étudie depuis ma carrière a été faite entièrement justement sur une sociologie du chiffre. C'est-à-dire que j'ai commencé par être moi-même statisticien. J'ai ressenti pendant mes études en fait justement quelque chose comparable à ce que vous mentionnez. En fait, j'ai eu un trouble à un moment qui m'a beaucoup abusé. C'est que dans mes premiers cours de statistique, on me disait, bon alors l'hypothèse de base quand on fait de l'économie, c'est que chaque acteur optimise sa fonction d'utilité. Et j'ai eu beaucoup de mal à avaler cette. Je me suis dit, moi j'ai pas l'impression de passer mon temps à optimiser ma fonction d'utilité. Et donc j'ai eu du mal à comprendre comment est-ce qu'on pouvait appliquer des chiffres à la réalité du monde, disons. Et donc je me suis focalisé sur cette question-là, en fait. Comment est-ce que les sociologues font pour quantifier le monde. C'est vraiment la question que je me pose depuis le début.
Voilà, je vais vous mettre d'autres... Ça va, vous avez à peu près... Parce que je sais que... voilà, j'en ai deux par Skype qui sont très mauvais. D'ailleurs, le deuxième, je vais uniquement le lire tellement c'est mauvais. Donc, j'ai deux autres petits extraits de lui. Je vous les fais passer.
Est-ce que ce sont les institutions qui lancent les questionnaires? On a Est-ce que ce sont les historiques, les institutions qui sont la source de la quantification du monde? Ou est-ce que la source de la quantification du monde, elle peut être provenir des individus, par exemple, ou de la population elle-même?
Oui.
Et ça, je trouve que ça, c'est pareil, en fait. L'alternative existe depuis très longtemps, et depuis bien plus longtemps qu'on le croit. Là, justement, j'ai des amis qui bossent en ce moment sur quelque chose qui s'appelle « quantify itself ». Alors, mais ça, en fait, quand on revient dans l'histoire, j'ai un collègue qui s'appelle Harold Bass, qui est un Hollandais, qui est très très chouette, qui est simplement revenu sur les journaux intimes des femmes dans l'Angleterre victorienne. Et évidemment, elles passent leur temps à quantifier, par exemple, l'argent qu'elles dépensent, et elles font leur propre décompte sur l'argent qu'elles dépensent eux par rapport à elles, par rapport à l'argent du ménage, comment est-ce qu'elles prennent des décisions, elles articulent les façons de prendre des décisions en fonction des quantités qu'elles ont pu monter, etc. Donc en fait, l'idée de se quantifier soi-même, ça date de... C'est pareil, il n'y a pas de raison que le chiffre soit... ça va à quantifier la subjectivité que depuis aujourd'hui, ça date vraiment depuis au moins le 19e siècle. Et encore parce qu'on a retrouvé les journaux intimes, mais ça, c'est probablement, j'imagine, que si on peut en trouver avant.
Ok, dernier petit bout.
Tout ça pour vous dire, en fait, je voudrais arriver à ce que je veux vous dire depuis le début, c'est que moi, personnellement, en tout cas, je pense que la quantification, c'est pas un bon levier critique en tant que tel. Je pense qu'il y a plein de super quantifications. Et je pense que quantifier le subjectif, ça n'est pas non plus un problème en tant que tel. Le problème, c'est les usages qu'on peut faire de certaines méthodes de quantification. Mais elle a aussi des utilités, elle a aussi des vertus d'émancipation, de lutte contre les injustices, d'autonomisation des individus, etc. Donc des objectifs qui sont à mon avis très louables, comme l'émancipation, peuvent être poursuivis grâce à des méthodes de quantification.
Voilà. Bon, je suis désolée, hein, le son de cet extrait-là est un sifflement horrible. Alors, il m'a donné quelques exemples quand même de comment la quantification pouvait être utilisée. Il m'a rappelé cette période où il y avait eu beaucoup d'enfants expulsés, qui remonte à l'époque Sarkozy, je crois, où il y avait beaucoup d'enfants ramenés à la frontière, expulsés des écoles, etc. Il m'a rappelé que, j'ai oublié le nom de l'association, mais qui avait quantifié en fait le coût de cette politique. Et qu'en sortant le coup de cette politique, finalement, il y avait eu une évolution de ça. Et il m'a appris aussi quelque chose d'assez intéressant dans la suite de l'interview, où il dit, mais le 1% dont on a tant parlé au départ, vous savez, le 1%, hein, les indignés, etc. D'après lui, ce serait parti de la CGT à l'INSEE, qui au départ ne fait des calculs que sur les 10% les plus riches ou les 20% les plus riches par rapport aux 20% les plus pauvres, et on regarde, etc. Et puis la CGT de l'INSEE aurait insisté pour que ce chiffre de 1% sorte. Et à partir du moment où ce chiffre des 1% est sorti, bah, ça a engendré quand même un petit peu de, on va dire, de mouvement. Donc voilà comment lui explique que la quantification dans certains domaines fait bouger les choses de façon assez importante. Alors, donc j'ai commencé à comprendre en gros qu'il y avait plusieurs types de choses. Il y a les indicateurs qui sont les questionnaires qu'on pose pour obtenir des statistiques. Et puis qu'une fois qu'on a ces statistiques, on les met en ligne sous forme d'open data pour que quelqu'un, ou plutôt des entreprises, les utilisent pour en faire quelque chose. Et puis toujours en continuant comme ça de surfer sur Internet et d'essayer de comprendre des choses, je suis tombée sur ce site de Coca-Cola, qui produit toujours, ce que j'ai apporté là, voilà, des cahiers sur le bonheur. Et c'est comme ça que j'ai contacté Laurent Lotti et Michel Galli. Donc au départ, évidemment, ça fait sourire. On se dit, Coca fait des cahiers sur le bonheur. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, c'est des cahiers édités par des chercheurs qui abordent les choses d'un point de vue politique, scientifique, économique, international. Voilà. Donc avec Robin qui est là, on a interviewé Michel puis Laurent. Et je vais peut-être commencer par demander à Michel déjà de nous donner une définition de ce que serait le bonheur, quelque chose d'un peu historique à partir du Moyen-Âge. Voilà.
Ou de l'Antiquité.
L'Antiquité, ouais. Oui, l'Antiquité, merci.
Non. Bonjour à tous. Alors, le lien avec Coca-Cola est quand même assez, comment dirais-je, un peu, enfin, à la fois précis et distant. Hein, nous nous sommes mis là-dedans parce que, il faut bien le dire, c'est une entreprise qui est ce qu'elle est, mais qui a proposé de financer des doctorants. Hein, donc, ils ont contacté des universitaires dont je fais partie, de manière à ce que l'on puisse financer des doctorants. Voilà. Mais c'est très difficile aussi pour nous, bien entendu, parfois de voilà d'être lié à cette marque. Cela étant, jusqu'à présent, nous sommes vraiment le conseil scientifique et nous n'avons aucun rapport normalement avec le marketing. Non, mais c'est pour le dire parce que puis on pourra en discuter, hein, parce que c'est quelque chose effectivement qui nous interpelle beaucoup. Hein, voilà. Donc le départ c'était ça, hein, c'est qu'ils souhaitaient pour en faire ce qu'ils voulaient en faire, mais ça ressemblait un tout petit peu plus à du mécénat justement américain plutôt qu'européen, hein, ils voulaient en faire une possibilité, je dirais, de donner de l'argent à certains doctorants. Voilà, donc pour l'instant nous en sommes là. Alors sinon, bon, donc moi je ne suis pas vraiment dans les chiffres, hein, puisque justement je suis littéraire, donc plutôt... on va dire historienne, philosophe et tout ça, de la culture, on va le dire comme ça. Hein. Alors, donc je vais remonter un tout petit peu, mais ce que je vais dire qui paraît anti-moderne, pour prendre bon, quelque chose là, me semble, enfin je l'espère aussi, donner une sorte de socle aussi à la réflexion et au débat. Parce que c'est quelquefois en se dégageant des choses ultra contemporaines que le recul permet aussi de voir un petit peu où l'on en est et ce que signifie justement le contexte dans lequel nous sommes. Alors, très rapidement, hein, ce terme de bonheur, bon, mais là aussi, hein, on va aller jusqu'à l'étymologie. Bon, en français, c'est un terme qui a mis très longtemps, hein, à se fixer. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Là aussi, ça fait partie de ces éléments qui peuvent nous aider à réfléchir. Alors, c'est un mot valise, hein, bon, heure. Hein. Heure, bon, on le trouve encore en 17e, hein, j'ai l'heure de vous connaître, hein, j'ai la chance de vous connaître. Et puis bon ça c'est tout bête, hein, bien sûr. Alors ce heure-là, si je puis dire, avec ou sans H, hein, est lié à, bon, alors on ne va pas faire de latin, mais enfin à augurium. Alors augurium, ça donne augure, vous savez, donc c'est l'idée, mais vous allez voir pourquoi ça peut nous interpeller, c'est l'idée de chance, de hasard, hein, les bons augures. Mais si l'on remonte encore à l'étymologie de nos langues, n'est-ce pas, il y a un rapport avec vraiment la racine, qui va du côté de augmenter. Donc vous voyez, d'un côté, vous allez avoir ce bonheur qui va être lié au hasard, à la chance, à quelque chose qui vous arrive. Et de l'autre côté, bon, on ne pense pas à travers l'étymologie, mais il reste une trace de quelque chose qui est finalement une construction, un accroissement par rapport à ce que vous avez déjà. Voilà. Alors, bon, parce que dans les époques anciennes, enfin, bon, médiévales, effectivement, puisque nous parlons du français, avant, on ne parle pas français, donc la question ne se pose pas, hein, eh bien, vous avez, bon, des termes latins, mais qu'on peut franciser, et qui sont plutôt félicité ou béatitude. Il n'y a pas, et sinon, c'est joie, enfin, des choses comme ça, dans lesquelles je ne rentre pas dans les détails du vocabulaire ancien. Mais là aussi, vous voyez, ça nous donne une petite indication, c'est-à-dire qu'à l'époque de notre langue, qui est une époque non antique, c'est-à-dire du contexte chrétien, hein, mais c'est très important, puisque c'est un ordre du monde, hein, c'est une conception du monde, c'est, etc. Hein, eh bien, le vrai bonheur, la félicité, la béatitude, etc., sont donc uniquement des termes à connotation religieuse, ce qui signifie, comme vous le voyez, que ce qu'on peut définir comme un état non seulement de plénitude, n'est-ce pas, hein, que peut engager le bonheur, hein, mais un état de plénitude permanent. Alors, vous y êtes ou vous y êtes pas, hein, vous pouvez rester en enfer, j'entends bien. Mais enfin, nous, comme nous parlons du bonheur, nous serons plutôt du côté des élus, n'est-ce pas? Eh bien, du coup, le terme de bonheur va, quand il va se développer, être vraiment du côté, et ça nous intéresse là aussi, non pas du bonheur absolu, du bonheur idéal, du bonheur pérenne, mais du côté de nos difficultés de la vie, pour le dire un peu familièrement. Donc vous voyez comment ce terme de bonheur va de plus en plus exister en regard, sinon en opposition, en complémentarité pour la pensée chrétienne, avec les termes à connotation religieuse, bonheur absolu, n'est-ce pas, de béatitude et de félicité. Hein, donc, vous savez, hein, pensée chrétienne, les fondements, c'est saint Augustin, la cité de Dieu, si vous voulez, puis l'autre cité, n'est-ce pas. Alors, on avait au début des petits organigrammes, là, des petites choses comme ça. Alors, il y en a un qui ne peut être qu'entièrement faux. Celui, mais c'était un truc amusant. Non, mais c'est pas hein, du tout. Hein, c'est pour discuter, c'est pas du tout pour juger ou pour mettre des points. C'est celui d'Aristote. Je reviens un instant sur l'Antiquité. Pourquoi ? Parce qu'Aristote ne peut pas, parce qu'il est idiot. Hein, je prends Aristote parce qu'il y avait marqué Aristote. Hein, la pensée antique ne peut pas distinguer comme nous le faisons. On n'a pas les mêmes catégories. Ne peut pas distinguer comme nous le faisons individuel et politique. Hein? Pour Aristote, en effet, l'homme est naturellement sociable, mais en grec, sociable se dit politikon. Polis, la cité, hein? Bon, vous savez tous, ça fait partie, tout le monde le sait. Hein? D'ailleurs, on a gardé polis, mais enfin, bon, c'est un dérivé. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, tout ça simplement pour aller très vite, mais pour vous dire que là où nous en arrivons, et c'est de ça qu'on va discuter, nos statistiques, nos quantitatifs, ça, ce n'est qu'une étape historique, je dirais. Hein? Bien entendu, le bonheur hein, a toujours été, ou ce que l'on appelle le toll avec une série de termes, encore une fois, a toujours été pensé, réfléchi. Bon, on est sur Terre, on a plein d'ennuis, mais en même temps, on a un horizon, hein, un horizon de satisfaction, puis des moments, des instants de, je ne sais pas, de réjouissance, d'harmonie, de plaisir. Enfin bon, après, vous pouvez décliner, bien entendu, tout ce que vous voulez. Alors là aussi, pour aller très vite, mais mon collègue est bien entendu, et j'ose à peine parler devant lui, mais pour faire à grosses étapes, parce que c'est un spécialiste de cette période-là, pour faire...
Vas-y, j'en parlerai pas comme ça.
Voilà, pour faire... Oui, comme ça, tu diras pas tout... Bon, d'accord. Non, pour simplement avancer, hein, c'est pas du tout pour faire un historique qui serait parfait. Hein. Grosso modo, on dit le 18e pour s'en sortir, bien entendu, hein. Bon, on dit, ça va descendre, on va descendre du ciel sur la terre. Bon, c'est façon de parler aussi. Laïcisation, on va dire, de notre affaire de bonheur, je ne parle pas du reste. Mais pourquoi hein? Pourquoi aussi, en remontant légèrement plutôt vers le 17e, parce que l'univers même n'est plus le même. Hein? Révolution scientifique, hein? Révolution qui se continuera au 18e siècle de pensée. Pourquoi je parle de ça? C'est-à-dire qu'il n'y a plus le monde hein, sublunaire ou supralunaire. Et les grands scientifiques, Newton et autres, bon, pour rester au 18e, hein, vont montrer que c'est la même chose. On est dans le même type d'univers. Alors, j'ai l'air de faire un détour scientifique à gros traits, mais c'est drôlement important. C'est parce que du coup, on va tout penser de la même manière, je dirais. Et donc, ce bonheur, et là, le terme s'installe en même temps, vous voyez. Il va tout convoquer. Bien sûr, il y a des croyants, il y a tout ce que vous voulez. Mais enfin, il va falloir aussi, à nouveau, mais très différemment de l'Antiquité, voir ce que l'on va faire dans le monde qui, de toute façon, est le même, avec quelque chose qui n'est pas en rupture. Vous voyez, un monde au-delà des sphères, si vous voulez, puisqu'il n'y en a plus, hein, et un monde qui est le monde humain. Alors là aussi, hein, c'est assez compliqué. Mais petit à petit, va revenir par d'autres voies que, encore une fois, le phénomène antique, hein, va revenir la relation, mais là, encore une fois, c'est mon collègue qui est vraiment spécialiste de cela, hein, la relation progressive, parce que ce n'est pas évident, hein, entre le politique, alors au sens plus proche peut-être de ce que nous entendons par là, et le bonheur, hein, si l'on peut dire, hein, c'est-à-dire que avec un tiraillement qui va me permettre de passer à mon deuxième point, un tiraillement, si je puis dire, si on prend là aussi, puisque c'était un nom qui était à l'écran, Rousseau, bon, alors c'est extrêmement complexe hein, la pensée de Rousseau, hein, mais si on prend ce nom, un tiraillement entre, bon, vous le savez, parce que vous rappelez votre lycée, j'en sais rien, mais vous rappelez, Rousseau, c'est à la fois... finalement l'autobiographie, c'est à la fois moi-je, etc., de façon très réfléchie, très complète, mais c'est aussi le contrat social. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, on peut subsumer, encore une fois, très, très grossièrement, autour de Rousseau, une forme, puis il y a bien d'autres penseurs, hein, au 18e, de pensée, qui va remettre en tension, mais différemment, encore une fois, différemment, il va rebattre les cartes de l'individu et du collectif, hein, du bonheur individuel, on va le dire comme ça, hein, et de la société, du politique, de la communauté, de tout ce que vous voulez, hein, des ensembles. Là, vous savez que Rousseau, il met comme proposition théorique que l'homme, vraiment, vraiment, à l'origine, eh ben, il était peinard parce qu'il était seul et qu'il se suffisait lui-même. Enfin, bon, ça n'a pas pu durer, malheureusement, mais il dit lui-même, de toute façon, c'est une vision théorique, et maintenant, il faut faire avec. Je ne le dis pas aussi simplement, et je caricature, mais enfin, voilà. Alors, maintenant, où nous en sommes? Alors, c'est ça, évidemment, qui vous intéresse. Alors, où nous en sommes? Et quoi que l'on ait tendance à dire maintenant dans le présentisme où nous sommes idéologiquement, eh bien, nous sommes les héritiers de tout cela, malgré tout, en particulier avec cette affaire de bonheur. Même les choses qui vous ont paru les plus lointaines, hein, on garde toujours des traces de ce qu'étaient les convictions anciennes, d'une certaine façon, et qui nous habitent. Hein. Alors, en particulier, puisque c'était ce que Magali me demandait, en particulier ce que j'ai appelé cette tension, bon, pour ne pas prendre un terme plus pédant, mais enfin, hein, entre l'individu et le collectif. Hein. Comment va-t-on maintenant le décliner? Enfin, qu'est-ce qu'on va en faire de cette affaire-là? Alors, on peut être croyant, etc. Je ne rentre pas dans ces considérations privées, personnelles, etc. Ce n'est pas ça. Hein. Mais notre monde, du moins notre monde occidental, ne fonctionne pas par rapport à ça. Il ne s'organise pas. Donc, en effet, le christianisme aussi nous a appris à être des individus. Bon, je laisse, hein, sur la construction de l'individu, hein, puisque, j'ai oublié de le dire, mais on est sauvé individuellement, hein, si on a fait des bêtises, et que, bon, bah, tant pis. Hein, bon, on est... Donc, certes, donc, on garde cet élément-là, mais notre société ne se construit plus par rapport à ça. Hein. Elle ne se construit pas entièrement, mais là, c'est l'objet de débats, de discussions, voire de polémiques très fortes et très importantes, avec tout à fait le politique. Bon, Laurent va en parler, hein, ce politique qui, à un certain moment, a mis le bonheur, hein, dans les constitutions. Et en même temps, et ça, c'est ce qu'on vous a montré, hein, depuis, on va dire une vingtaine d'années, pour faire rapide ou peut-être un peu plus, fait retour, si je puis dire, revient cette affaire de bonheur, voilà, tout le temps sur les pieds. Parce qu'il y a presque autant de livres sur le bonheur qui paraissent actuellement que des livres sur la gastronomie, je ne sais pas si, ou comment faire des bons petits plats, etc. C'est quand même extraordinaire. Pourquoi est-ce que, d'abord, chacun se dit, bon, je vais peut-être gratter un peu de fric en faisant un bouquin sur le bonheur, mais en plus, enfin, bon sang de bonsoir. Pourquoi il y en a tant? Donc, vous voyez, il y a là quelque chose qui peut-être se rejoue à nouveau, hein, de façon, alors là, assez, je dirais, contemporaine. Et voyez, dans l'historique très bref, hein, que j'ai voulu brosser, on est toujours, hein, dans cette question de l'individu, du moi-je, moi-seul, et du collectif. Hein. Moi-je, moi-seul, mais moi je suis un être sociable, je ne rentre pas là aussi dans la polémique, on peut discuter bien entendu. Alors, quel rapport va-t-il y avoir entre mon bonheur, la réalisation de mes désirs? Bon, après vous déclinez, hein, chacun a en tête, vous voyez, on peut faire évidemment toute une série d'éléments autour du bonheur, hein, et le collectif. Et sous quelle forme cela va-t-il se produire? Alors, je dirais, c'est toute la question actuelle et qui passe justement aussi par le numérique, par les réseaux, etc. Donc là, j'en viens tout de suite aux contemporains, hein, des sociabilités nouvelles. Hein. Comment vit-on, chacun ou autre, hein, notre rapport, en effet, au collectif. Hein. Il y a, en effet, ces fameux réseaux. Alors, on va discuter avec 200 personnes qui sont à l'autre bout de la Terre, grâce à une langue vaguement commune, bon, qui est une espèce d'anglais international, etc. Bon, très bien. Non, mais parfait. Très bien. Bien sûr que c'est une forme de sociabilité. Hein. Et à l'intérieur de cette forme de sociabilité, généralement, lorsqu'on discute, on ne va pas nécessairement discuter politique, on va prendre justement quelque chose au sens fort de ludique. Les jeux, les relations comme cela. Hein, donc forme de sociabilité, mais forme de sociabilité plaisante, on va dire. Vous voyez, je ne pars pas dans des problèmes, au contraire, de critiques politiques ou de choses peut-être plus sombres éventuellement. Hein. Et donc sociabilité, et donc une certaine forme de bonheur, des réseaux, et donc sociabilité horizontale. Hein. Donc vous voyez qu'on n'est pas tout à fait dans le politique tel que, encore une fois, trop schématiquement, hein, j'ai pu en parler. Hein. À partir de ces réseaux, on va quand même quelquefois se retrouver. Hein, et on va se retrouver au sein de ce que l'on appelle, et qui est à nouveau valorisé, qui était très présent dans les sociétés anciennes, hein, des fêtes. Mais qu'est-ce que c'est le bonheur de la fête? Réfléchis. Dans la tension individu-collectif. D'une certaine façon, ou un concert, enfin bon, voyez vos expériences, hein. C'est à la fois un moment où vraiment ça peut être sympa, je dirais, au sens où justement on s'oublie en partie soi-même. Hein. Donc il y a toute cette tension à nouveau, mais complètement différente, entre l'individu et le collectif, l'individu et le groupe. Hein. Quelque chose où l'individu s'abolit dans le groupe. Hein. Et puis sans porter des critiques sur l'Internet et autres toiles diverses, hein. Narcissisme, etc. Mais ne jugeons pas à dire narcissisme, je ne suis pas là du tout, pas un seul instant pour juger, mais on va se montrer comment, est-ce qu'on va se montrer vraiment dans notre singularité, lorsqu'on le souhaite, ou de façon assez perverse et insidieuse, dans une norme aussi. Vous voyez, une norme en particulier d'activité, d'action, de situation, on va, je ne sais pas moi, s'envoyer les photos de vacances, mais tout le monde. Voilà. Je ne parle pas du social, hein, j'engage pas un discours politique de ce type, hein, je prends un discours plus général, je dirais, etc., etc. Hein. Voilà, donc je crois que c'est aussi ces réflexions-là, hein, qui tournent, hein, c'est pour ça que je prends fête, que je prends plaisir d'annoncer qu'on a réussi à faire du surf ou à faire naviguer son bateau. Bon, je suis marseillaise, donc je pense plutôt à la mer, mais enfin, vous pouvez grimper un sommet aussi, moi, je n'ai jamais à la montagne, mais bien sûr, je veux dire, hein, mais en même temps, vous voyez, ce n'est pas du tout pour dire que ce n'est pas bien, plaisir aussi de se montrer comme cela, et donc une forme de bonheur, bonheur d'avoir accompli, j'en plaisante, mais un truc sympa, agréable, etc. Mais en même temps, peut-être normalisation. Vous voyez ce que j'appelle la tension entre le bonheur, la satisfaction, etc., individuelle et collective, hein, même à travers les choses. Alors voilà, bon, je finirai parce qu'on m'a demandé, mais enfin, ça raccroche justement à ce qu'on vient de vous dire, hein, que penser de, par ailleurs. Et donc là, c'est pour ça que j'ai fait le lien aussi avec les réseaux, le numérique, ou l'Internet, si vous voulez, hein, de tout ce que l'on vient de nous montrer. Hein. Là, c'est un débat ouvert. Moi, je suis là, d'ailleurs, de rien de ce que j'ai dit n'est une réponse. Ce ne sont que des questions ouvertes. Que penser de ce quantifiable, hein. Que penser aussi, et là, je serais prête un peu à polémiquer, hein, non pas que ce soit le bonheur ou autre chose, mais justement, on vous a demandé. Que signifie que l'être humain, et là je prends exprès un terme abstrait, parce qu'est-ce que c'est l'individu? Oui et non. Que signifie que l'on soit quantifié? À peine naît-on, on nous mesure. Bon, ok, il paraît que c'est utile pour savoir si on va bien grandir, sans aucun doute. Je n'en sais rien. Mais jusqu'où ça va aller? Et qu'est-ce que ça signifie alors par rapport à l'être humain? Qu'il soit une série de quantifications, qu'il soit une série de chiffres. Je pose simplement la question. Hein. Quantification, mesure donc scientifique, comme on dit, hein, bon, je ne rentre pas non plus dans la définition de science, bien entendu, mais scientifique au sens strict, comme c'est le terme que nous employons maintenant, hein, une mesure est toujours considérée, je vais vite, comme objectivable. Alors à quoi ça sert qu'elle soit objectivable ? Quand elle est quantifiable, c'est pour qu'elle soit reproductible. Alors c'est bien gentil, toutes ces statistiques, mais elles servent certainement à quelque chose. Hein? Elles servent certainement, encore une fois, c'est ce que je disais, à normer, à nous normer, et bon, sans parler peut-être d'autres conséquences éventuelles. Alors, scientifique, je finis un peu là-dessus, scientificité au point qu'il y a des professeurs, figurez-vous, je les ai découvertes il y a peu de temps. J'ai mis un féminin parce qu'il s'avère que c'était une femme, mais je les ai découvertes, il y a peut-être des hommes sans doute, des professeurs de bonheur. Ça, c'est formidable. Alors, je ne parle pas des gourous qui écrivent les bouquins. Bon, ça, d'accord, ça, on savait. Non, non, il y en a universitairement parlant. Alors, en particulier, mais pas seulement, à l'université Pauvre Erasme, Erasmus de Rotterdam. Hein, et c'est parti du département de sociologie. Là aussi, je le donne, moi aussi, objectivement. Enfin, je veux dire, on est là pour ouvrir hein, des choses. On est, peut-être que... Enfin, il n'y a pas de... Voilà. Hein, avec bah, des World Data Base, justement, hein, depuis 1974. Hein, quelqu'un en particulier qui s'appelle Ruth Van Hoven, hein, qui est maintenant un monsieur un petit peu plus âgé, bien sûr, hein, et qui donc a créé des doctorats en sciences du bonheur, autour à la fois de la sociologie du bonheur, et oui, mais donc on rejoint bien les chiffres, vous voyez, et de l'économie du bonheur, parce que les chiffres, ça, ça plaît aux économistes, ils en ont besoin. Hein? Donc, c'est d'autres sciences humaines, si je puis dire. Hein? Tout cela est lié aussi, sciences du bonheur, sciences du bien-être, hein, à quelque chose que vous trouverez aussi sur Internet, hein, et pauvre Spinoza, qui s'appelle la fabrique Spinoza. Alors pourquoi vous savez vaguement, hein, Spinoza, c'est un des grands philosophes du XVIIe siècle, qui est particulièrement à travailler, mais alors de sa manière à lui, qui est fort complexe, sur le bonheur. Mais bon, c'était... Bon, on ne va pas parler Spinoza. Fabrique Spinoza depuis les années 2000. Donc, vous voyez, cette mode, c'est quand même relativement récent, hein, et qui se travaille là-dessus, entre bonheur, glissant de plus en plus vers bien-être, glissant aussi, vous voyez, toujours la même tension malgré tout, non seulement entre le quantitatif et le qualitatif, et vous voyez que ce qu'ils cherchent et qu'ils n'arrivent pas à trouver, c'est leur fameux indicateur véritablement de subjectivité. Parce que là, ça devient vraiment compliqué. Donc, pour passer du quantitatif au qualitatif, c'est-à-dire dire quelque chose qui finalement serve à quoi ? Bon, on laisse ça, mais touche vraiment quelque chose, définition du bonheur, personne, enfin pour l'instant, n'y arrive pas. Et là aussi, toujours la même chose. Le quantitatif, ça va nous mettre, nous, on est un des éléments des 200,35 personnes qui font je ne sais pas quoi. Donc, on n'y est plus. Et en même temps, parce que vous êtes interrogé, que vous êtes rentré, hein, vous êtes un individu. N'oublions pas que le socle commun des connaissances contre lequel j'avais ferraillé lorsqu'il est arrivé, et maintenant que tous les jeunes professeurs apprennent par cœur, un de ces éléments, c'était d'apprendre l'autonomie. Donc, vous voyez comment il y a toujours, pour moi, c'est le problème essentiel, autour du bonheur et autour d'une série de choses complémentaires. Hein. Bien sûr, on est content d'être un individu libre, seul, tout ce que vous voulez, décider tout seul, etc. Mais d'abord, est-ce vrai ? Et qu'est-ce que ça signifie, cette atomisation, en même temps, possible ou risquée, je ne sais pas, de la société ? Et encore une fois, comment saisir, alors là en effet j'ai les chiffres aussi de l'OCDE ou de l'ONU, etc., comment saisir le qualitatif en, alors ils sont sans arrêt en train de modifier leurs facteurs ou leurs indicateurs, mais simplement je vais vous retrouver... l'ONU, bon, alors, il y avait 7 facteurs, enfin, entre autres, hein, économique, environnement, santé physique, santé mentale. Moi, ça personnellement, ça me fait peur. Bien-être au travail, bien-être social, santé politique. Alors, moi, je ne sais pas comment ils mesurent ça, hein, mais voilà. Hein, les méthodes quantitatives, hein, posent ce problème, hein, de, je dirais, l'objectivation dite scientificité dans nos termes modernes, extrême, précisément, hein, de ce que serait l'être humain, et donc finalement, in fine, l'individu. Voilà, bon, c'est ce que je voulais vous présenter.
Merci. Peut-être juste dire que Michel Galli travaille sur un futur ouvrage.
Oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. CNRS, mais c'est un dictionnaire, on est nombreux.
Un dictionnaire du bonheur au CNRS.
Voilà.
Ça. J'ai juste un petit intermède, on va revenir sur le Moyen-Âge. Hein. On a interviewé avec Robin, père Desjean, qui est curé de la paroisse Saint-Roch à Paris dans le premier. Donc le curé des gens du spectacle. Voilà. Qui fait donc un petit intermède sur le temps qu'on passe à essayer de collecter ce bonheur et puis sur la notion d'économie du salut.
Nous dépensons beaucoup d'énergie pour trouver le bonheur. On est passé de l'économie du salut au salut par l'économie. Oui, c'est vrai qu'on est passé aujourd'hui tout ce qui est à l'origine de tout ce qui est devenu moteur dans les décisions que prennent les gens qui ont du pouvoir aujourd'hui, c'est l'argent. C'est devenu tout est l'argent gouverne notre monde. Alors, il ne faut pas faire de longévisme, encore une fois. L'argent, il est dit ni bon ni mauvais en soi. C'est notre attitude à nous qui est déterminante par rapport à lui. Alors, l'économie du salut, ça veut dire tout ce que Dieu a mis en œuvre, et Dieu sait s'il n'a pas épargné sa peine, hein, pour que nous soyons sauvés. C'est ça, l'économie du salut. C'est surtout l'action de Dieu, sur cette histoire sainte, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce mois du mois de mars 2016, tout ce que Dieu met en œuvre dans la relation avec les hommes, avec l'humanité, pour que nous soyons sauvés. Dieu n'agit que dans ce sens-là. C'est ça qu'on appelle l'économie du salut. Ça a commencé avec Adam et Ève, avec Abraham, le roi David, tous ces prophètes, Jésus-Christ, etc., jusqu'à tous ces grands saints, tous ces grands théologiens, jusqu'à nous aujourd'hui. Ça, c'est l'économie du salut, c'est tout ce que Dieu a été capable de mettre en œuvre. Voilà.
Voilà. On verra si on n'a pas eu de réponse pour le moment des cultes musulmans et juifs. On a un bouddhisme.
Sur le bonheur ?
Oui.
Ils y seront dans le dictionnaire. Hein. J'ai réussi à les avoir tous les trois.
Bouddhiste, oui, mais on verra si...
Non, c'est pour dire... on peut trouver des gens qui dialoguent, il n'y a pas de souci.
peut-être, alors... Je vais rapidement introduire Laurent Lotti. On va parler plus spécifiquement des liens entre politique et bonheur et des textes fondateurs. Vous aviez prévu de les lire, non ? Sinon, je les ai.
En fait, comme je suis indisciplinaire et peut-être indiscipliné, comme dit Michel, j'ai prévu toute autre chose. Mais oui, mais il faut que je les lise. Ah oui, ça serait. Oui.
Je les lis alors. Vous voulez les lire ?
Non, vous les lisez, puis moi je dis deux, trois mots sur.
Très bien. Alors, je vous ai amené la déclaration unanime des 13 États-Unis d'Amérique réunis en congrès le 4 juillet 1776. Et puis la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans ces deux textes, vous allez voir que le bonheur, c'est un mot cité en tant que tel dans ce qui doit être mis en œuvre. Alors nous tenons pour évidente, donc les États-Unis, hein. Nous tenons pour évidente pour elles-mêmes les vérités suivantes. Deux points. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouve la liberté, la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de le changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement en le fondant sur les principes et en l'organisant sur la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sécurité et le bonheur.
Je dis un mot sur...
Bah oui, allez-y. Bon.
Alors ça, c'est la première fois que le bonheur entre dans un texte de nature constitutionnelle. Ça, c'est la Révolution américaine, et puis peu après, il y aura la Révolution française, qui s'inspire d'ailleurs de la Déclaration de l'indépendance américaine par rapport à l'Angleterre. C'était une colonie anglaise. Et ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que, alors que pendant tout le, disons, la fin du XVIIe et le XVIIIe siècle, comme en parlait Michel, il y a eu en fait une lutte entre une idée religieuse intégriste, à l'époque pas du tout la religion musulmane, mais la religion catholique. Mm-hmm. Une lutte entre une conception intégriste de la vie, hein, consistant à penser qu'on doit accepter la souffrance sur Terre et se soumettre à l'idée, à la propagande selon laquelle on a hérité du péché originel d'Adam et Ève, et que même quand on est un enfant innocent qui vient de naître, si on souffre, c'est normal parce qu'on hérite du péché originel. Plusieurs auteurs, dont Voltaire, se mettent à affirmer contre, par exemple, Blaise Pascal, qui avait écrit ses pensées au XVIIe siècle, que, en gros, le plaisir est une bonne chose, que le fait de s'aimer soi-même est une bonne chose, que ça pourrait permettre d'ailleurs d'aimer les autres, que c'est un rapport complexe entre aimer les autres et s'aimer soi-même, et qu'il est bon d'aller au théâtre, d'aller au spectacle, de prendre du plaisir. Bon. Cependant, ça, c'est une des choses qu'on hérite, et c'est le, disons, le, l'intérêt que chacun ose désormais contre, en fait, l'intégrisme religieux à l'époque catholique, l'intérêt que chacun ose avoir pour le plaisir dans la vie. Mais avec un texte comme celui-ci, c'est la première fois que le bonheur entre dans quelque chose qui est juridique et politique. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça ne nous dit pas désormais, enfin le texte constitutionnel ne dit pas « il est normal d'être heureux » ou « c'est un droit que chacun soit heureux ou dispose du bonheur ». Mais c'est un texte qui dit que toutes les fois où un gouvernement empêche son peuple d'être heureux, on a le droit de se révolter contre lui. C'est-à-dire que l'origine de l'entrée du bonheur dans une déclaration politique qui est à l'origine d'une des grandes démocraties, quels que soient ses défauts mondiales, c'est ce droit à se révolter contre les gouvernants qui font les malheurs publics. On peut écouter du coup le,
la déclaration. Ouais, ouais. Alors, bon, vous connaissez tous l'article 1, mais en fait c'est le préambule. Que je vais lire un peu de façon... je vais lire le début et la fin. Donc, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, les rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés dans le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur les principes simples et incontestables, tournent autour du maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
C'est encore la même chose, en fait, c'est la déclaration selon laquelle, la révolution... arrive par cette déclaration des droits de l'homme et la volonté des États généraux transformés en Assemblée nationale de donner une constitution à la France. Et cette constitution, elle sera faite parce que des gouvernements auparavant ont fait le malheur public et qu'il est bon désormais que les citoyens soutiennent ou défendent ou se battent contre s'il le faut, la constitution qui doit permettre le bonheur de tous. Mais l'idée, c'est que ça doit empêcher qu'on fasse les malheurs, le malheur de tous. Moi, j'ai un troisième texte de Saint-Just et puis de...
Oui, allez-y.
Bon, en fait, il y a une phrase qui est très connue pour ceux qui travaillent sur l'histoire du bonheur. C'est de Saint-Just qui dit en 1794 « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Alors, bien sûr, il y a eu mille manières avant... et depuis l'Antiquité et au Moyen-Âge, de penser quelque chose comme le bien-être ou surtout comment éviter les ennuis ou le malheur ou le mal-être. Mais comment expliquer que quelqu'un dise ça et que le bonheur est une idée neuve en Europe ? C'est un rapport au nom du Comité de salut public sur le mode d'exécution du décret contre les ennemis de la Révolution, présenté à la Convention nationale dans la séance du 13 Ventose en 2, donc c'est en 1794. Et si on lit le contexte dans lequel ça se trouve, c'est le suivant. Que l'Europe apprenne que vous ne voulez plus un malheureux ni un oppresseur sur le territoire français. Que cet exemple fructifie sur la terre, qu'il y propage l'amour des vertus et le bonheur est une idée neuve en Europe. Alors il y a un petit côté un peu religieux, et c'est tout l'héritage encore religieux en fait de ces gens du XVIIIe siècle, y compris quelqu'un comme Voltaire, j'en reparlerai, que ça fructifie sur la terre, c'est un peu une formule biblique. Mais en fait il y a l'idée qu'il faut se battre contre ceux qui oppriment et qui font qu'il y a des malheureux. Je voudrais lire un dernier texte, je ne crois pas que vous l'avez, Magali. C'est un extrait d'une constitution qui a été écrite en grande partie par Condorcet. Je pourrais dire un mot parce qu'il est essentiel sur la question d'une quantification qui peut servir à quelque chose de bon. Mais je peux le dire tout de suite. Condorcet, en fait, est un mathématicien. Et les mathématiques abstraites, logiques et tout ça, il n'y croit pas ou ça ne l'intéresse pas. Il travaille sur les probabilités et les statistiques.
et ça l'aide à construire quelque chose qui deviendra après l'idée et la pratique de la sécurité sociale, qu'on est précisément suffisamment en train de nous détruire aujourd'hui pour qu'on s'intéresse tous ici aujourd'hui au bonheur, en fait, et qu'il y ait un dictionnaire du bonheur et qu'il y ait un travail ici d'artiste sur les indicateurs. Donc je vous lis trois articles d'une constitution qui n'a jamais pu être mise en place et qui a été écrite en 1793. Article 21. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, ce qu'on retrouvera au moment du CNR, du Conseil national de la résistance en 1945, et ça entre quasiment dans la Constitution. Donc ce n'est pas donner de l'assistance, là c'est donner du travail. Et ce n'est pas forcément une utopie, comme on dit. Soit en leur procurant du travail, c'est-à-dire en empêchant en fait un mode de gouvernement tel que ça produise du chômage, je le traduis en termes d'aujourd'hui, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Article 22, l'instruction est le besoin de tous. Et vous savez qu'en ce moment, il y a une tentative pour, il y a une destruction progressive de l'école républicaine. Bon, et là, on est au début de sa construction. Donc article 22, l'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens. Et article 23, la garantie sociale, donc on pourrait dire aujourd'hui la sécu, disons, consiste dans l'action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits. Cette garantie repose sur la souveraineté nationale. C'est cette souveraineté nationale dont on nous dit aujourd'hui que tous ceux qui la défendent sont des populistes, et le mot populiste avant voulait dire qui est pour le peuple. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est juste une terrible horreur d'extrême droite. Bon, ça en fait, c'est l'état d'esprit de l'entrée du bonheur dans les constitutions à la fin du XVIIIe siècle dans les nouveaux États-Unis et puis en France. Et c'est une conception politique du bonheur. Voilà, ça c'est ce dont on a parlé lors de l'entretien là, filmé. Mais maintenant, enfin, est-ce que je continue à prendre.
Oui, bon. Allez-y.
Et alors, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai travaillé sur toute autre chose maintenant pour aujourd'hui.
Mais alors court, hein.
Non, je pourrais pas. 10 minutes, comme Michel, 15 minutes.
Non, 10.
Ah.
Je veux dire, j'ai pas résumé.
Non, pas du tout. Au contraire. 10 minutes, je vais essayer, mais c'est pas sûr.
Allez, go.
Oh, go. Il y a trois choses que je savais sur le bonheur en ayant travaillé sur le 18e siècle et en réfléchissant bien sûr au 21e siècle. La première, c'est comment ça a été une lutte pendant tout le 18e siècle pour obtenir le droit au plaisir et au bien-être contre l'intégrisme religieux catholique. La seconde, comment s'est développée néanmoins en parallèle au 18e siècle une théorie dont on ne sait plus qu'elle est religieuse et politique aujourd'hui, qui s'appelle l'optimisme, et qui est en fait à l'origine de l'ultralibéralisme. Je vais en dire un mot. Et puis la troisième, on en a déjà parlé, c'est que le bonheur devient une affaire politique. Donc politique, religieuse, et puis il y a cette histoire de l'optimisme dont je parle avant de dire ce que j'ai découvert grâce à Magali et à son incitation à réfléchir. L'optimisme, c'est... j'ai dit tout à l'heure que Voltaire s'opposait à Blaise Pascal et affirmait qu'on n'a pas à se soumettre au monde tel qu'il est, à accepter la souffrance, mais qu'on peut essayer de trouver librement son bien-être, disons. Bon. Le même Voltaire, qui est un conseiller des princes, qui est formidable dans sa lutte contre la religion, mais qui par ailleurs, enfin dans la contre la religion intégriste, hein, mais qui est par ailleurs quelqu'un qui, avant les grands experts économistes qui cherchent à conseiller les gouvernants, cherche à conseiller, lui, par ses lumières, ses idées. Bon. Et certains d'entre vous ont peut-être lu et se rappellent peut-être de Candide ou l'optimisme, où il prétend critiquer l'optimisme, l'idée que Dieu a tout fait à l'optimum. Mais à part le moment où il a écrit ce petit texte, Candide ou l'optimisme, très célèbre, le plus célèbre de tout le XVIIIe siècle, tout le reste de sa vie, comme énormément d'intellectuels de son temps, il est en fait il est lui le plus grand diffuseur de l'idée d'optimisme, qui n'est pas sans rapport avec le bonheur, hein, vous comprenez bien, parce que les sondages là, sont souvent, sur le bonheur consistent aussi à demander aux gens s'ils sont optimistes ou pas, s'ils voient la vie du bon côté ou s'ils espèrent quelque chose de mieux pour le futur. Or, optimiste ne voulait pas du tout dire, au moment où le mot est apparu, la même chose qu'aujourd'hui. Ça date de 1737, ce mot, et c'est une doctrine religieuse que Voltaire, qui a si bien combattu l'intégrisme catholique, essayait de substituer au christianisme, c'est-à-dire d'essayer de fonder une nouvelle religion qui avait aussi une fonction économique et politique. Son idée, c'est non plus que il faut se soumettre à la souffrance à cause du péché, mais qu'il faut accepter le monde tel qu'il est, qui est globalement positif, il est fait au mieux, il est fait à l'optimum, c'est le meilleur des mondes possibles, et on ne peut pas faire mieux parce que c'est Dieu qui l'a créé. Mais précisément, ce monde à l'optimum, il contient plein de défauts. La souffrance, les inégalités, etc. Mais tout ça, c'est nécessaire. Si on supprime un défaut, ce monde devient encore pire. Dieu a essayé d'imaginer, selon lui, tous les mondes possibles. Alors, selon lui, selon Leibniz, selon un Anglais qui s'appelle Bolingbroke, selon un autre qui s'appelle Pope, selon un très grand nombre de philosophes chrétiens ou d'une nouvelle religion, disons déiste de l'époque. L'idée, c'est comment sauver l'existence de Dieu, et à travers ça, comment sauver l'ordre moral, économique et politique qui s'appuie sur la religion. Donc c'est une question, en fait, économique et politique, l'optimisme, et une question économique, politique et religieuse, le bonheur. L'optimisme, c'est donc la doctrine selon laquelle Dieu a tout fait à l'optimum. Aujourd'hui, ça s'est transformé sous la forme de « le marché fonctionne naturellement à l'optimum ». C'est-à-dire que c'est l'origine de l'ultralibéralisme, en particulier chez un économiste comme Mandeville au début du XVIIIe siècle. On a oublié tout ça, parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, quelqu'un qui connaît tous les débats qui ont agité toute l'Europe intellectuelle, hein, c'est quelques centaines de personnes, ou peut-être milliers, non, sur l'optimisme, et le christianisme, et l'athéisme, parce qu'ils ont peur de l'athéisme, ces gens qui défendent l'optimisme ou le christianisme, c'est-à-dire peur plutôt des conclusions qu'on peut tirer de l'athéisme. On pourrait peut-être essayer d'être heureux ensemble, on pourrait peut-être ne pas attendre de Dieu qu'il nous offre le bonheur qui tomberait tout seul comme une fatalité sur nous, ou le malheur, mais agir pour organiser une solidarité. C'est plus ce que je disais, je recommence ma phrase. On ne sait plus quel était le sens de l'optimisme parce que vous allez voir pourquoi je parle longuement de ça, parce que vous verrez le lien avec. Ouais. Parce que à la fin du XVIIIe siècle, 1788, un petit auteur très médiocre, pas un artiste inventif, hein, mais un artiste soumis, invente la pièce de théâtre L'optimiste ou l'homme content de tout. Et il dit dans sa préface, on s'en fiche des débats entre Leibniz, Bayle, enfin, on pourrait aligner tous les noms de la philosophie de l'époque, hein, ou du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Bon. Moi, j'ai inventé un personnage qui est content. Il est content de tout, tout va bien, et c'est un bon caractère. Et la pièce commence. Et dans la pièce, on a un type, l'optimiste, qui est content de tout, qui est content qu'il y ait des gens riches comme lui et des gens pauvres, parce que les gens riches peuvent donner du travail aux gens pauvres, et les gens pauvres peuvent travailler pour les riches. Tout va bien. S'il y a un incendie, finalement, ça sert à ce qu'on reconstruise quelque chose après, et tout va bien, tout est parfait. Un an après, ça a un tel succès, cette pièce, qui est soutenue par le roi, que ça rentre ensuite dans tous les dictionnaires et dans nos têtes. Cette pièce a un tel succès qu'un an après, quelqu'un invente le pessimiste. Parce que l'opposé d'optimiste, ça n'a jamais été pessimiste pendant un siècle. C'était athéisme. Ou christianisme, parce que c'était une autre